à vos manettes. Quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Bien bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission de Cordialement Geek et bonne année puisqu'on est déjà le 3 janvier. Eh oui, donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous n'avez pas trop mangé, parce que moi c'est mon cas. Voilà, donc du coup, pour cette nouvelle année, on va commencer avec un jeu qui fait peur. On va parler de Song of Horror, après on aura un petit point sur les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. On parlera d'une news concernant le jeu Pokémon Go. Ensuite, on aura une petite news sur des scientifiques qui ont téléporté des données d'un ordinateur à un autre. Et on finira avec les petites sorties de la semaine, puisqu'il n'y en a pas beaucoup. On commence donc avec Song of Horror. Donc, c'est un jeu de survival horror, aventure, édité et développé par Razer Games et Protocol Games, qui est sorti le 31 octobre 2019 sur Windows et qui sortira en 2020 sur PlayStation 4 et Xbox One. Dans Song of Horror, une entité maléfique nommée La Présence provoque une série de disparitions. Contrôlée par une intelligence artificielle, cette entité s'adapte à vos actions et à vos décisions. Plusieurs personnages sont jouables et le jeu continue même si l'un des protagonistes meurt. Le jeu est classé PEGI 18 et il obtient une note de 14 sur 20 de la part de jeuxvideo.com. Ces dernières années, les amateurs de survival horror sont en joie. Les productions horrifiques ne cessent d'envahir nos plateformes préférées pour nous proposer des titres variés allant du FPS mis en tout sur l'ambiance, comme Outlast ou encore Amnesia, en passant par des jeux inspirés d'œuvres des années 1990. Song of Horror, la création de Protocol Games, fait donc partie de cette deuxième catégorie. Véritable hommage aux productions d'antan, le titre compte bien faire chavirer notre cœur fragile en instillant la peur, ainsi qu'en proposant des plans uniques et des portes en guise de chargement. Mais la recette d'hier peut-elle encore fonctionner aujourd'hui ? Dans Song of Horror, il n'est pas question de monstres, de zombies ou encore de Stulu, mais simplement d'une ombre qui décide de mener la vie dure aux humains en hantant les lieux. Cette dernière a donc pris pour cible un manoir lugubre ainsi que son hôte, Sebastian P. Usher, un écrivain à succès de chez Wack Publisher. Suite au silence radio de Monsieur Usher, son éditeur commence à s'inquiéter. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il demande le soutien de Daniel Noyer, personnage principal de cette histoire teintée de surnaturel. Le joueur dans la peau peu rassurée de Daniel se rend alors à son tour dans ce manoir inondé de monstruosités pour mener l'enquête. Le titre de Protocol Games propose aux joueurs de se remémorer les premières gloires du genre horrifique sur PC et console en nous plongeant directement à la fin des années 1990. L'action est alors placée au second voire au troisième ou au quatrième plan pour laisser la part belle aux énigmes et à l'exploration. On retrouve donc ces plans fixes, chers aux vieilles productions du genre, permettant de mettre des éléments du décor en avant ou au contraire permettant de nous cacher des petites surprises qui sont souvent désagréables. Une recette qui a toujours fait mouche pour engranger chez le joueur inquiétude et stress, et dans Song of Horror, le résultat est plus que concluant. Le joueur a toujours l'impression d'être épié et en danger, quelle que soit la situation. Seul le menu pause permet de souffler un peu et de faire le plein de force avant de repartir dans un nouveau coupe-gorge. En effet, contrairement au Stulu de Moons of Madness, la présence de Song of Horror est une entité maléfique invisible qui ne cesse de surprendre le joueur en faisant claquer une porte, en interférant les fréquences d'une vieille télévision cathodique, en déformant l'image du jeu, ou même et surtout en attaquant notre personnage quand on s'y attend le moins. De ce fait, Song of Horror arrive à préserver son aura horrifique du début à la fin de l'aventure. Heureusement, le titre nous propose quand même quelques astuces pour maximiser nos chances de survie, comme la possibilité d'écouter aux portes afin de percevoir si oui ou non un danger se profile dans la salle suivante. Et la survie est une notion importante dans Song of Horror. De bien des manières, Song of Horror rappelle le jeu d'horreur coopératif nommé Obscure qui était sorti en 2004 sur PC, PlayStation 2 et Xbox. Tout comme ce dernier, cette nouvelle création propose de se déplacer dans des plans fixes et de balayer l'écran avec notre lampe torche à l'aide du joystick droit afin de récupérer le maximum d'indices et d'informations sur les niveaux que nous traversons. Et tout comme ce dernier, il nous propose plusieurs personnages jouables, donc chacun des personnages au nombre de 4 représente une vie. Pour aller à la fin d'un niveau pouvant représenter entre 3 et 4 heures de jeu, le joueur doit absolument en faire survivre au moins un. Donc si les 4 personnages viennent à mourir, c'est le game over assuré. Préparez-vous mentalement puisque vous allez souvent devoir recommencer de zéro, surtout dans les plus hautes difficultés. Les 4 personnages proposent chacun une vision différente des lieux visités et des éléments qui les entourent, Certains héros seront donc plus à même d'aider le joueur en proposant par exemple des indices plus judicieux sur telle ou telle énigme. Mais cette idée intéressante sur le papier aurait gagné à être davantage exploitée. En effet, les réflexions des protagonistes se ressemblent plus ou moins. La plupart du temps, ils trouveront les lieux sales et désordonnés et se plaindront de la poussière. En même temps, c'est un manoir abandonné. Les développeurs ont aussi choisi de proposer des statistiques variées entre les personnages, allant de la force au sentiment d'insécurité. Mais encore une fois, on ne constate pas de réelle différence en passant de l'un à l'autre, une fois plongé dans les sombres couloirs des deux premiers chapitres. Cette production horrifique propose aux joueurs trois types de difficultés, allant de M.R. James à Edgar Allan Poe, en passant par H.P. Lovecraft, H.P. Lovecraft désignant ici la plus haute difficulté. Donc je vous conseille de vous tourner vers le mode M.R. James, soit le mode facile du jeu, puisqu'en plus de ne rien apporter en termes de gameplay, les difficultés hautes se révèlent bien trop punitives pour le joueur, ne laissant ainsi aucune marge d'erreur. Donc, il n'y a rien de plus frustrant que de mourir à cause d'une simple QTE. Voilà. Et après, vous n'aurez plus jamais envie de jouer à ça. La présence peut en plus survenir à tout moment, au détour d'une porte, ou même lorsque vous vous baladez tranquillement dans une grande pièce, vous poussant ainsi à vous cacher sous une table ou dans une armoire. Malheureusement, les attaques aléatoires de la présence peuvent aussi engendrer quelques problèmes de game design. Donc la mort permanente de nos personnages apporte beaucoup à Song of Horror. Elle contribue à donner sens à ce sentiment d'impuissance face aux nombreux événements qui ne cessent d'interrompre nos investigations. Mais recommencer de zéro tout un chapitre après avoir perdu les 4 vies disponibles, dont une ou deux de manière injuste, n'est pas vraiment une partie de plaisir. Voilà, si vous êtes rageux comme moi, ça ne l'est pas. Cette difficulté se ressent également du côté des énigmes. Même si assembler des objets pour ouvrir un passage ou déverrouiller un coffre semble plus ou moins évident la plupart du temps, certains casse-têtes manquent de logique, de clarté ou se révèlent beaucoup trop difficiles pour une grande majorité des joueurs. Donc par exemple, l'une des dernières énigmes du second chapitre demande aux enquêteurs en herbe de connaître la règle des chiffres hexadécimaux, donc c'est quand même pas donné à tout le monde, surtout quand on ne dispose d'aucun véritable indice. Voilà, donc en gros, il faut avoir Bac plus 10 pour réussir à faire ce jeu. Côté technique, Song of Horror s'en sort avec les honneurs. Le titre arrive à nous offrir de jolis panoramas et à nous proposer des lieux crédibles, beaux et remplis d'objets racontant des histoires. Le second chapitre est d'ailleurs très réussi de ce côté-ci, puisqu'il propose de nombreuses pièces aux ambiances colorimétriques et aux agencements différents afin de ne jamais ennuyer le joueur. Une cour commune, un magasin débordant de vieilles antiquités, une cave sombre et claustrophobe et de nombreux appartements, chacun ayant une identité propre. Le tout ne souffre en plus d'aucun ralentissement et tourne sur la majeure partie des machines. Cependant, il faut tout de même noter que la modélisation des personnages, et notamment de leur visage, est largement en deçà du reste. Malheureusement, malgré ses nombreuses qualités, Song of Horror peine à nous transporter dans son histoire. Même si les mécaniques de jeu sont agréables et les niveaux parfaitement construits, il est difficile de se sentir réellement concerné par cette aventure macabre. La faute à des cinématiques expéditives et à ses personnages sans consistance. La fin du chapitre 2 en est le parfait exemple, puisqu'une fois notre enquête terminée, nous avons pour seule récompense une brève cinématique ne dépassant pas les 20 secondes. Donc après avoir fouillé le manoir de Sebastian P. Usher de fond en comble pour retrouver ce dernier, Daniel Noyer, malgré ses aventures cauchemardesques, décide tout de même de suivre les traces de l'écrivain afin de résoudre le mystère de la boîte à musique. Cette fois-ci, notre héros sent une once de charisme, décide de délaisser ses acolytes d'autrefois pour se rapprocher de nouvelles têtes jouables. Donc on a Omar Nassiri, un ancien élève de Sebastian P. Usher, et Grace Richards, une étudiante en histoire. Donc cela tombe bien puisque ces deux nouveaux compagnons connaissent bien nos prochaines destinations. Pour la première fois dans l'histoire de Song of Horror, l'épisode 3 est découpé en plusieurs actes afin de nous faire découvrir trois nouveaux lieux. Donc les archives et la bibliothèque de journaux du département d'histoire et la grande bibliothèque. Même si ces trois lieux ont plus ou moins un point en commun, donc ils se trouvent dans la même université, ces derniers sont indépendants les uns des autres et forment chacun un petit niveau. Une nouveauté malvenue puisque la peur est alors diluée, les niveaux sont trop courts pour espérer nous perdre ou même nous angoisser, contrairement aux deux premiers épisodes. Donc là où le manoir comportait un jardin, un grenier, une cave ainsi que deux étages composés d'une dizaine de pièces gardant leur part de mystère et de zone d'ombre, ici, le joueur aura rapidement le sentiment d'être chez lui. Donc, par exemple, la grande bibliothèque, dernier niveau de cet épisode 3, est une unique pièce simplement utilisée pour une seule énigme. Donc même si la règle de mort définitive était déjà frustrante dans les épisodes précédents, elle permettait néanmoins de renforcer ce sentiment d'impuissance face à la présence, l'ennemi du jeu. Mais dans l'épisode 3, cette règle n'a plus vraiment sa place, le chapitre étant découpé en 3 actes séparés par des chargements et des cinématiques. Il est donc énervant de devoir tout recommencer. Donc on aurait aimé que les épisodes actes fassent office de checkpoint. Cela dit, il est difficile de perdre ces personnages dans ce nouvel épisode puisque la présence ne nous attaque que rarement et que les nouveaux QTE sont moins punitifs. De leur côté, les niveaux manquent de cohérence et de lien entre eux. Nous sommes directement plongés au sein de ces lieux, contrairement aux autres épisodes qui prenaient le temps de présenter leur bâtisse mystérieuse en faisant débuter le joueur à l'extérieur de celle-ci. Heureusement, les différentes salles conservent tout de même un certain charme, notamment grâce à des éclairages toujours aussi réussis. L'autre souci concernant cette nouvelle construction est qu'elle n'incite pas le joueur à l'exploration. Donc la plupart du temps, les énigmes ne nous promènent plus de pièce en pièce afin de récupérer un maximum d'indices pour les résoudre, ce qui réduit considérablement la peur du joueur. Cependant, les différents puzzles sont davantage logiques et réussis. Malheureusement, malgré les cinématiques bien plus fréquentes qu'autrefois et les nombreuses révélations que possède cet épisode, il est encore difficile de se sentir concerné par cette histoire horrifique. Donc ce sont les différents casse-têtes variés et inspirés, ainsi que l'ambiance globale toujours aussi convaincante qui pousse le joueur à poursuivre l'aventure. Il ne nous reste donc plus qu'à patienter jusqu'à la sortie du prochain chapitre, qui est attendu pour le début de cette année, pour savoir si l'histoire réussira ou non à vous captiver encore davantage. Donc pour résumer les points positifs, on a des mécaniques à l'ancienne toujours aussi efficaces, une sensation de stress permanente, des niveaux très bien construits, une jolie plastique, on a 4 personnages et donc 4 visions, et on a environ 4 heures de durée de vie par épisode pour un premier run. Pour les points négatifs, on a des énigmes un brin difficiles, une difficulté hasardeuse, un épisode 3 morcelé et donc moins impactant, des visages mal modélisés, les 4 personnages qui sont malheureusement sous-exploités, et on a un scénario toujours en retrait. Voilà. Du coup, on va pouvoir s'écouter tout de suite Rats de Ghost et on viendra juste après pour parler de tout plein de choses.
Yes.
Donc c'était Rats de Ghost. On va faire une petite pause publicité et on reviendra juste après pour parler des tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, du news jeux vidéo, du news technologie et on finira avec les sorties de la semaine. À tout à l'heure.
À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Rebonsoir, re-bienvenue sur Neptune FM pour la deuxième partie de l'émission Cordialement Geek. On va tout de suite commencer avec les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Donc le top 5 qui fait aussi top Nintendo Switch, on a en 5ème place Pokémon Épée sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 4ème place c'est Call of Duty Modern Warfare sur PS4, un jeu d'Activision Blizzard. En 3ème place FIFA 20 sur PS4, un jeu d'Electronic Arts. En 2ème place Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. Et en première place est donc Luigi's Mansion 3 sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. Pour le top 3 de la PS4, on a en 3ème place Star Wars Jedi Fallen Order, en 2ème place est Call of Duty Modern Warfare, et en première place FIFA 20. Pour la Xbox One, on a en 3ème place Call of Duty Modern Warfare, en 2ème place Star Wars Jedi Fallen Order, et en première place FIFA 20. Pour le top 3 PC, on a en 3ème place Red Dead Redemption 2, en deuxième place, les Sims 4, l'édition standard. Et en première place, Football Manager 2020. Le dernier top, c'est le top 3 Nintendo 3DS, avec en troisième place, Luigi's Mansion 2 Select. En deuxième place, Mario Kart 7. Et en première place, Luigi's Mansion. On passe maintenant à la news de jeux vidéo. Pokémon Go débute 2020 avec un événement sportif dont il vient de donner le coup d'envoi. Il s'agit du Marathon Éclosion. Donc depuis hier et jusqu'au jeudi 16 janvier 2020 à 22h, Pokémon Go accueille le marathon Éclosion, à travers lequel vous aurez l'occasion de remporter une poignée de bonus. Donc des bonbons multipliés par deux lors de l'éclosion, la poussière d'étoiles multipliée par deux lors de l'éclosion, ainsi que des Pokémon habillés d'un chapeau de fête à capturer. Voilà, les petits chapeaux violets tout pointus avec un petit pompon. Aussi, les lunettes 2020 sont désormais disponibles dans la boutique mode. Elles sont très moches si vous voulez, mais voilà. Elles sont disponibles. Si vous faites preuve d'endurance et parvenez ensuite à parcourir 50 km avec le suivi d'exploration, vous pourrez alors obtenir une pierre d'Unis, un objet débarqué en septembre dernier, qui vous permettra de faire évoluer certains Pokémon. Donc on a par exemple Lugulabre, pardon, Feuilloutant, Flamoutant, Floutoutant, Moucharna et Au Massacre. Jusqu'ici, l'unique moyen de l'obtenir était d'accomplir une série de 7 études de terrain, donc en plus de cette pierre rare, vous pourrez mettre la main sur 15 super bonbons et 50 000 poussières d'étoiles, ce qui n'est quand même pas rien. Vous pouvez retrouver l'ensemble des détails de l'événement Marathon Éclosion sur la page officielle du jeu si vous voulez plus d'informations. Voilà, on passe maintenant à la news technologie. Les scientifiques travaillent d'arrache-pied pour faire passer l'informatique à une toute nouvelle ère et ils viennent de réaliser une grande avancée en la matière en téléportant pour la toute première fois des informations d'un ordinateur à un autre. Des chercheurs et des scientifiques de l'université de Bristol, en collaboration avec ceux de l'université technique du Danemark, ont réalisé une téléportation quantique entre deux puces informatiques pour la toute première fois. En effet, l'équipe a développé avec succès des dispositifs capables d'exploiter les applications de la physique quantique, en générant et en manipulant des particules de lumière au sein de circuits nanométriques programmables. Nous avons pu démontrer un lien d'enchevêtrement de haute qualité entre deux puces en laboratoire où les photons sur l'une ou l'autre puce partagent un seul état quantique. Chaque puce a ensuite été entièrement programmée pour effectuer une gamme de démonstrations qui utilise l'enchevêtrement, a expliqué le co-auteur principal de l'étude, le Dr Dan Llewellyn, chercheur dans les laboratoires de technologie d'ingénierie quantique à l'université de Bristol. Les scientifiques ont ainsi pu envoyer instantanément les données en utilisant un processus appelé l'enchevêtrement quantique. Les informations ont été échangées sans contact électrique ou physique, car le processus permet à ces particules de communiquer instantanément sur de grandes distances. Cette réalisation est d'une grande importance dans la mesure où ce serait le premier pas vers la création de l'Internet quantique, ce qui permettrait de mieux protéger les informations contre les attaques malveillantes. Les scientifiques ont également pu créer un circuit plus complexe à quatre sources. Le docteur Imad Farouk, co-auteur de l'étude, a expliqué donc, je cite, « Sur la base de notre résultat précédent de sources monophotoniques de haute qualité sur puce, nous avons construit un circuit encore plus complexe contenant quatre sources. Donc, toutes ces sources ont été testées et se sont révélées être presque identiques, émettant des photons presque identiques, ce qui est un critère essentiel pour l'ensemble des expériences que nous avons effectuées. Donc dans l'ensemble, l'équipe a obtenu un taux de réussite de 91% en ce qui concerne la téléportation des particules. De plus, les chercheurs ont pu démontrer d'autres fonctionnalités importantes de leur conception. Des recherches plus poussées seront donc menées afin d'aboutir à des systèmes et des réseaux de communication quantique capables d'interagir avec l'électronique actuelle. Donc pour en savoir plus sur le sujet, si ça vous intéresse, les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue Nature Physics. Voilà, on va maintenant finir l'émission avec les sorties de la semaine. Il n'y en a pas eu beaucoup et il n'y en aura pas beaucoup puisqu'on en a eu une aujourd'hui vendredi 3 janvier avec le programme d'entraînement cérébral du docteur Kawashima qui fait son grand retour sur Nintendo Switch. Et sinon, on aura deux autres sorties pour jeudi 9 janvier avec AO Tennis 2 qui sortira sur PC, PS4 et Nintendo Switch et The White Door qui sortira sur PC.
Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo sur Neptune FM.
Donc voilà, c'est ce qui termine l'émission de Cordialement Geek de cette semaine. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour l'émission Cordialement Geek, mais aussi pour mon autre émission Asian Bubble que vous retrouverez lundi prochain de 21h à 22h sur Neptune. Sur ce, je vous souhaite encore une bonne année. Je vous souhaite aussi une bonne soirée, un bon week-end et à tchè fête.
Retrouvez Cordialement Geek chaque vendredi à 18h30 avec Loli sur Neptune FM. À retrouver en podcast sur neptunefm.com.